Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici les titres. Félix-Antoine Tshisekedi plaide pour la reconnaissance du génocide congolais. Le président de la République était hier à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. De son côté, le président français lance un appel à la communauté internationale à donner de l'espoir aux populations des Kivu et aux centaines de milliers de déplacés de la RDC. Vous l'entendrez. Toujours pas de rentrée de classe dans certaines zones du Nord Kivu. Dans d'autres, ce sont des grèves des enseignants qui se généralisent. Du coup, l'année scolaire 2025-2026 connaît des sérieuses perturbations. Nous faisons le point dans ce journal. Et puis, la RDC vient d'intégrer le vaccin antipaludique, un nouveau vaccin dans son calendrier vaccinal. C'est une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme. Pour en parler, nous recevons le docteur Augustin Mila, bio, épidémiologiste, vaccinologue et directeur adjoint du programme élargi de vaccination PEV en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République plaide pour la reconnaissance du génocide congolais. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier mardi lors de son discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Par ailleurs, après son élection en juin dernier comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027, la participation de la RDC, a-t-il dit, s'articulera autour de la paix et la sécurité d'une part et la prévention et la résolution des conflits d'autre part. Suivez les autres aspects du discours du chef de l'État congolais avec Alain Rongmushinj.
Le président Félix Tshisekedi a salué le travail abattu par l'ONU pendant ses 80 ans tout en rappelant les défis auxquels l'organisation est confrontée aujourd'hui.
Si l'Organisation des Nations Unies demeure un pilier de la régulation des relations internationales, de la prévention et de la résolution des conflits, ainsi que de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales, elle est aujourd'hui confrontée à des défis systémiques qui éprouvent sa crédibilité et sa capacité d'action. Les profondes mutations de notre époque, notamment la persistance des conflits armés, le dérèglement climatique, les crises humanitaires récurrentes et les menaces transnationales protéiformes, nous rappellent que le multilatéralisme n'est plus une option, mais une exigence incontournable qui s'impose à tous.
Le chef de l'État congolais est revenu sur la réforme du Conseil de sécurité.
L'Afrique doit bénéficier de 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 sièges dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris le droit de veto, les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les membres permanents actuels.
Dans un autre registre, Félix Tshisekedi a aussi rappelé l'urgence climatique en présentant la RDC comme pays solution.
De son côté, le président français Emmanuel Macron a particulièrement appelé la communauté internationale à donner de l'espoir aux populations des Kivu et aux centaines de milliers de déplacés de la République démocratique du Congo. Il a lancé ce message alors qu'il prenait parole du haut de la tribune de l'ONU à New York. Il annonce une réunion le mois prochain à Paris de tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. On écoute le président français Emmanuel Macron dans cet extrait proposé par Alain Rongmushinj.
De la même manière, dans la région des Grands Lacs, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Il faut rendre l'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Et c'est aussi pour cela que nous réunirons le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Et je me félicite de ce qui a été conduit par l'Union africaine, par tant de voisins, par le Qatar, par les États-Unis d'Amérique. Mais l'urgence humanitaire, là aussi, est indispensable. Nous ne devons oublier aucun de ces conflits. Nous n'avons pas le droit, à aucun moment, de nous décourager. Cette capacité de sursaut, c'est notre force. C'est ce qui nous a rassemblés il y a 8 décennies. Nous n'avons aucun droit à la fatigue dans ce moment que nous vivons.
Entre-temps, ici au pays, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, chargée des opérations et de la protection, en mission depuis 2 jours dans la région de Beni au Nord Kivu, a rencontré hier les acteurs de la société civile et la notabilité du groupement de Bambou Bakisiki. La rencontre a eu lieu à Maimoya, une localité récemment touchée par les attaques des EDF et située à une 50aine de kilomètres au nord de Beniville. Les échanges ont porté sur la protection des civils et la situation humanitaire dans la région. Marc Marofimbo nous fait le point.
Lors des échanges, Viviane Van de Perre a rassuré la société civile et la notabilité de Maimoya de l'appui de la MONUSCO au FRDC dans les opérations de traque des ADF pour mieux protéger les civils. De leur côté, les acteurs de la société civile et la notabilité locale ont plaidé pour une opération des casques bleus plus efficace afin d'éradiquer ces rebelles. Patrick Moussoubao, président de la société civile dans le groupement de Bambou Bakisiki, insiste.
Les questions là, appuyer, non, il faut qu'ils fassent une opération bilatérale aux côtés des FRDC. C'est la MONUSCO tue, les FRDC tuent, donc c'est ça ce que nous voulons. Nous en avons vu lorsqu'ils sont venus dans les SADC, on avait vu que la MONUSCO avait bien travaillé les Tanzaniens là, qu'on voit aujourd'hui très faibles, les gens de l'Afrique du Sud qu'on voit aujourd'hui très faibles. Mais nous savons que ces militaires là ont même la force de frappe parce qu'ils avaient travaillé à Goma aux côtés des FRDC et ils avaient réussi aussi. Donc la MONUSCO devrait faire une autre approche que appuyer les FRDC, mais combattre aux côtés des FRDC. Ça pourrait être bon.
Avant de se rendre à Maimoya, Viviane Van de Perre est arrivée à Oïcha, où elle a échangé avec l'administrateur du territoire de Beni sur la situation sécuritaire dans la région. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Par ailleurs, la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue la province de l'Ituri depuis plusieurs années nécessite un suivi constant et des moyens conséquents pour accompagner le processus de paix. C'est dans ce cadre que plusieurs organisations ont mis en place un mécanisme de dialogue permanent. Une délégation provinciale a séjourné à Kinshasa la semaine dernière. Sur place, elle a rencontré les différentes personnalités du pays, mais aussi des partenaires extérieurs pour présenter cette nouvelle structure et solliciter leur appui politique et financier. Elle était avec Jean-Claude Bloki.
Du 7 au 22 septembre 2025, cette équipe composée de représentants des institutions étatiques, de la société civile et des différentes communautés ituriennes a mené une série de consultations et de plaidoyers à Kinshasa. Parmi ses interlocuteurs, des diplomates, des membres du gouvernement ainsi que des députés et sénateurs. Objectif, obtenir l'adhésion et leur soutien afin de renforcer les démarches pour la paix en Ituri. Michel Meta est le responsable de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri.
Beaucoup d'engagements de paix qui souffrent d'application. Nous leur avons présenté l'ossature des mécanismes pour que nous ayons cette fois ici un appui, d'abord un appui politique et deuxièmement l'appui financier parce qu'un mécanisme robuste comme celui-ci nécessite un appui financier conséquent. C'est de là aussi est née aussi l'idée d'avoir ces mécanismes qui viennent répondre à ces besoins de suivi des engagements signés par les différentes parties prenantes pour le retour de la paix dans la province de l'Ituri.
Pour l'UNADI, cette initiative ne s'oppose en rien aux opérations militaires toujours en cours contre les groupes armés. Cette structure bénéficie de l'appui financier, technique et logistique de la MONUSCO qui a lancé à Bounia la construction du bâtiment des ventes abritées, son siège officiel. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Je vous le disais en titre, au Nord Kivu, l'année scolaire 2025-2026 connaît des sérieuses perturbations dans différentes zones éducationnelles à travers la province. Dans certaines, pas toujours de rentrée des classes 3 semaines après l'ouverture de la rentrée scolaire, tandis que dans d'autres, ce sont des grèves persistantes des enseignants qui s'y généralisent. Ces derniers continuent à réclamer leur salaire non payé. Le tour d'horizon de la situation dans ce reportage d'Élisée Chikota Chivui.
À Walikale, la rentrée scolaire 2025 ressemble donc à un rêve brisé pour de nombreux enfants. Entre écoles détruites, villages désertes, salaires ou primes d'enseignants impayés depuis plusieurs mois, ce qui provoque des grèves intermittentes, absences ou des blocages. Cette situation empêche l'organisation normale des cours dans plusieurs entités. À cela s'ajoute la pauvreté des parents. L'éducation qui, en péril, reste donc un défi dans plusieurs coins de la province du Nord Kivu. Un enseignant de Masisi déclare « Même si nous voulons enseigner, comment faire ? Nous n'avons pas de sécurité, pas de salaire, pas de moyens. » Tant que ça ne change pas, on ne peut pas reprendre les cours. Les leaders locaux appellent à la constitution d'une commission tripartite d'INACOPE, élus nationaux et ministères de l'éducation pour enquêter sur la situation. et permettre enfin aux enfants de Walikale de retrouver les chemins de l'école.
Nous demandons aux autorités nationales qu'il y ait une commission tripartite vers Walikale, vérifier pourquoi les enseignants persistent. Où est parti l'argent des enseignants?
Le sous-préfet de la province éducationnelle, Ruchuro 1, confirme la paye depuis lundi dernier par la Caritas des enseignants de son ressort.
Comment réduire les accidents de circulation dans la ville de Kisangani, dans la Tchopo? La direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière prend ses responsabilités. Elle organise depuis hier mardi une série de sessions de recyclage des conducteurs des engins motorisés. Pour cette première vague, 200 taximens motos sur plus de 1000 déjà enregistrés sont concernés. Ils sont repartis dans plusieurs sites de la ville et en deux vacations. Jacques Moukonkole nous en parle.
Cette session de formation est prévue pour 3 jours et se déroule en 2 vacations. La grande salle de la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire est l'un des sites retenus pour ce recyclage. Jasmin Ofukalo Komba, directeur provincial de la Saint-Père, espère qu'elle va contribuer à la réduction des accidents routiers.
La plupart des cas d'accidents que nous enregistrons dans la ville de Kisangani est due à l'ignorance des codes de la route. C'est ainsi que nous sommes suggérés de faire une formation, un recyclage à tous les conducteurs de la ville de Kisangani, dans le but de diminuer la fréquence des accidents de trafic routier.
Plusieurs thématiques sont abordées au cours de cette session. L'éthique et la déontologie du conducteur, le code routier ainsi que ses innovations. Au regard des matières apprises, Jean Yenga, un des participants, trouve que cette formation est bénéfique pour eux.
Qu'on ne savait pas, on marchait dans l'ombrage. Ça va nous aider à diminuer les taux d'accidents. Je souhaite à ce que tous les usagers de la route puissent aussi en faire partie. C'est bénéfique pour la ville ainsi que pour nos clients.
Cette formation étant obligatoire, le directeur provincial de la Saint-Père exhorte tous les détenteurs des engins motorisés à y participer pour limiter les accidents. Car, souligne Jasmin Ofuka, avec la réhabilitation de la voirie urbaine en cours, il y a risque que les accidents surviennent régulièrement sur la voie publique. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps, ici à Kinshasa, signalons le début timide du contrôle des permis de conduire cette semaine sur certaines artères de la capitale. Si l'opération est pour le moment effective sur quelques points comme Kintambo Magasin, cela n'est pas encore le cas sur d'autres artères comme le boulevard Triomphal et le rond-point Mandela où nos reporters sont descendus hier. À Kintambo Magasin, ce contrôle débuté lundi est effectué par des policiers. Toutefois, ceux qui n'ont pas encore de permis ne sont pas sanctionnés mais plutôt sensibilisés sur l'importance de s'en procurer. Notez que cette opération a lieu alors que la délivrance des permis se poursuit sur les 3 sites désignés à travers Kinshasa. C'est un reportage signé Juliette Louchangou, Gloriane Lepeya et J.R. Kabamba.
À Kintambo Magasin, les agents de l'ordre portant des gilets verts pour la plupart, aux insignes de la ville, interpellent les conducteurs des véhicules et des motos en vue de vérifier s'ils sont en possession de leur permis de conduire. Machine de validation en main, ils y introduisent les permis brandis afin d'en vérifier l'authenticité. Ces majors, responsables des contrôleurs trouvés sur place, mais qui a recul l'anonymat, explique la procédure.
Nous nous arrêtons à contrôler les permis de conduire. Tu en as, tu nous présentes, nous prenons la machine, on vérifie. C'est un bon permis de conduire et c'est un mauvais permis. On avait fini la formation depuis la semaine passée. C'est depuis hier que nous avions commencé. Maintenant, nous sommes à la phase du contrôle. Tous les conducteurs doivent aller trouver leur permis. Alors, un bon permis.
Comme la majorité des conducteurs rencontrés, ces motards se disent favorables à l'acquisition du permis, mais déplorent les casse-têtes actuels pour s'en procurer.
Se procurer les permis n'est pas mauvais, mais au niveau des sites quand on paye, ça prend même jusqu'à une semaine sans avoir ces documents.
Les conducteurs plaident pour l'ouverture d'autres sites de délivrance des permis de conduire, vu le nombre important des récurrents. D'autres signalent aussi des tracasseries à propos de ces documents par d'autres services non habilités à effectuer ces contrôles.
Rendons-nous dans la province de Lomami. Une polémique tourne autour des véhicules dotés au mois de janvier dernier aux administrateurs de 5 territoires de cette province. Le député provincial Cyril Ngoy Soulou, élu de Lwilou, dénonce ce qu'il qualifie de confiscation des jeeps des administrateurs des territoires par le gouverneur de province. Des accusations rejetées d'un revers de la main par l'autorité provinciale. Explication avec Esther Ndalafina.
Depuis Kinshasa où il séjourne, le député provincial Cyril Ngoy Soulou fait une dénonciation autour de ce qu'il qualifie de confiscation des jeeps de 5 administrateurs des territoires. Il déplore le fait que les bénéficiaires de ces véhicules utilisent actuellement les vélos pour effectuer les missions d'itinérance.
Une semaine après la remise aux administrateurs, le véhicule était confisqué par le gouverneur de la province de Lomami. J'avais procédé par motion d'information à l'Assemblée provinciale. Aucune réponse. Au moment où je vous parle, les administrateurs utilisent le vélo pour inspecter leur territoire.
Contacté, Iron Van Kalombo Musoko, gouverneur de province de Lomami, reconnaît avoir affecté momentanément ses véhicules à la sécurisation de la province avec l'autorisation des autorités de Kinshasa.
J'ai réquisitionné 3 sur 5 véhicules pour des fins sécuritaires. Il y a pas moins de 45 suspects arrêtés et déférés en justice sur décision du Conseil de sécurité. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous a autorisé.
Le gouverneur de province prévoit de résoudre ce problème lors de la prochaine dotation des véhicules par le gouvernement central. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Amnesty International invite les autorités camerounaises à libérer 36 manifestants détenus arbitrairement depuis 5 ans. Ces personnes croupissent, selon l'ONG, à la prison de Kondengi à Yaoundé après avoir été condamnées par un tribunal militaire à des peines allant de 5 à 7 ans de prison. En effet, le 22 septembre 2020, plus de 500 personnes avaient été arrêtées dans plusieurs villes du Cameroun pour avoir pris part à des manifestations pacifiques organisées par le parti d'opposition Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. La plupart ont depuis été relâchées, mais 36 d'entre elles demeurent derrière les barreaux.
L'invité.
La RDC vient d'intégrer un nouveau vaccin dans son calendrier vaccinal. Il s'agit du vaccin antipaludique. Il s'agit d'une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie de paludisme qui tue près d'un enfant sur deux avant l'âge de 5 ans. Pour en parler, nous recevons le docteur Augustin Milabio, épidémiologiste, vaccinologue et directeur adjoint du programme élargi de vaccination PEV en RDC. Il s'entretient avec Sarah Soumbela.
Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Alors docteur, un nouveau vaccin a été introduit dans le programme national de vaccination. Quelle est son importance au regard du contexte épidémiologique du paludisme dans le pays?
Bon, à titre d'information, le paludisme, c'est une pandémie qui fait rage dans la région africaine de l'OMS. Si je dis bien, la région africaine de l'OMS prend les pays de l'Afrique subsaharienne. Et c'est là où on retrouve plus de 90% des cas de paludisme qui sont enregistrés sur le plan global. Sachant bien que la RDC fait partie de ces pays. Et la RDC et le Nigeria sont les deux pays qui regorgent plus de 40% des cas de paludisme. La cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans, en RDC, c'est au moins 50% de ces enfants-là qui sont touchés par le paludisme et qui meurent à la suite des complications de cette maladie aussi.
Et quelles sont les données d'efficacité et de sécurité disponibles sur ce vaccin?
Dès qu'un vaccin est mis sur le marché, ça dit qu'il est efficace. Et les données d'efficacité d'un vaccin dépendent d'un individu à un autre. C'est-à-dire qu'il y a des préalables, il y a son état nutritionnel, il y a son état, par exemple, sérologique, et pour ceux-là qui sont les immunodéprimés. Mm-hmm. Pour les cas du paludisme, c'est un vaccin qui se donne normalement pour être bien protégé, c'est un vaccin qui se donne en 4 doses.
Okay.
En 4 doses, et nous commençons par vacciner les enfants à l'âge de 6 mois. Il revient pour la deuxième fois à l'âge de 7 mois, et il revient pour la troisième fois à l'âge de 8 mois. Et enfin, l'enfant va revenir encore à l'âge 6 mois après, soit à l'âge de 15 mois.
Alors comment le PEV envisage-t-il d'intégrer ce nouveau vaccin dans le calendrier vaccinal existant, notamment pour les enfants de moins de 5 ans, mais aussi les femmes enceintes?
Bon, ce vaccin n'est pas pour les femmes enceintes. D'accord. Ce vaccin est pour les enfants de moins de 5 ans, normalement. Et lorsque nous introduisons les vaccins, c'est déjà introduit dans les calendriers des PEV de routine. Mais sur les plans programmatiques et au niveau du pays, tenant compte des défis liés à la logistique, on n'est pas à mesure d'aller au même moment sur l'ensemble du pays.
Ok docteur, parlons communication. Quelle est la stratégie de communication et de mobilisation communautaire qui seront mises en œuvre pour garantir l'adhésion de populations, surtout dans les zones rurales et à faible couverture vaccinale?
Au niveau du pays, nous utilisons normalement toutes les stratégies possibles pour atteindre les parents. Et la première stratégie qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les plaidoyers. cette stratégie de plaidoyer est orientée vers le niveau institutionnel, mais aussi au niveau des leaders d'opinion et des influenceurs. La deuxième stratégie, c'est la mobilisation sociale. La mobilisation sociale va de pair avec l'engagement communautaire. Et au niveau de l'engagement communautaire, nous voyons ce que nous appelons les relais communautaires. Ce sont les gens qui passent d'un ménage à un autre pour expliquer aux membres des familles, aux parents d'enfants, l'importance de l'action que nous sommes en train de mener.
Dernière question, quel partenariat institutionnel soutient cette initiative et comment le PEV compte-t-il assurer la pérennité de l'approvisionnement en vaccins?
Bon, les partenariats institutionnels, nous avons au niveau global, ce qu'on appelle l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, ce qu'on appelle Gavi. Je pense que vous connaissez l'OMS, vous connaissez l'UNICEF, tout le monde est dans ces partenariats. C'est avec ces partenariats-là institutionnels que les pays travaillent pour l'introduction de ces nouveaux vaccins au niveau du pays.
Merci docteur, je rappelle que vous êtes épidémiologiste, vaccinologue et directeur adjoint du programme élargi de la vaccination ici en RDC.
Merci, c'est moi qui te remercie.
Docteur Augustin Milabio répondait aux questions de Sarah Soumbela. Par ici prend fin ce journal coordonné par Élisée Tikota Chivueta, supervision de Alain Rungmushinj, à la mise en onde Jean-Claude Nsiala. Merci d'avoir été des nôtres.